Chapitre 29. La fourque à 7 août. Par un temps magnifique, nous sommes montés à la fourque. Les chevaux avançaient lentement, nous avions tout le temps d'admirer la route et de penser à nos peines secrètes. La situation se tend et le pauvre capitaine ne sait comment se dérober. Je l'aiderai. Lorsque nous sommes arrivés au glacier du Rhône, en face de beautés incomparablement grandioses et sévères, mes impressions du Pilate sont revenues m'écraser, mais avec plus de force. Percé me dit « Vous aimez cela ?»« Passionnément. »« Moi, pas, mais nous avons rarement le même jugement, » ajouta-t-il d'un air malheureux. « Très rarement. On a ici une impression physique désagréable. » « Morale, voulez-vous dire, l'esprit s'agrandit, se dilate. »« Non, c'est le mal des montagnes. »« Il est matérialiste maintenant, et on voudrait nous marier ensemble. »« Demain, je m'expliquerai avec Monsieur de la Platière, et pendant que nous descendrons un versant de la montagne, j'entends qu'il rebrousse chemin par l'autre versant. »« Toutefois, je voulais être aimable le dernier jour, et ce soir, je me suis efforcée de causer avec lui. » Mais il était emprisonné dans ses préoccupations et je pris un livre qui traînait sur la table et se trouva être les lettres de Leibniz à Bossuet. Je ne puis dire quelle impression me saisit tout à coup en lisant ces simples mots. À Hanovre, ce 8 janvier, nouveau style, 1692. Ce fut avec une sensation de vie intense, en même temps de mélancolie profonde, que, sous les brumes du Nord, je le vis si vivant, si loin et si près de nous, ce grand savant qui écrivait, c'est ainsi qu'il m'a paru, assis à la fenêtre à petits carreaux d'une maison poudreuse comme ses habits, car il n'avait pas le temps de se brosser, et d'ailleurs, depuis 1692, la poussière s'est entassée. « Regardez donc, dis-je au capitaine, comme cet en-tête de lettres est vivant. À Hanovre, ce 8 janvier, nouveau style. » Je ne vois pas de vie dans ces mots insignifiants. Pas de vie ? Pourquoi alors ai-je éprouvé cette singulière impression qui m'a transporté avec tant de réalité auprès de ce grand homme ? Vraiment, vous ne le voyez pas, ce Leibniz ? Mais non, puisqu'il est mort. Quel fait bizarre ! Continuai-je en suivant mon idée. À 2 siècles de distance, sur le haut de la fourque, c'est disparu sur un simple mot, se présentent à nous plein de vie. Comme c'est intéressant ce retour vers eux et vers notre propre disparition. Mais qu'est-ce qui nous fera revivre, nous, quand nous n'y serons plus ? Vous n'êtes pas gaie, mademoiselle, me dit-il d'un ton navré. Pas triste non plus. J'allais expliquer ma pensée, mais elle est au nombre des jeunes béguines qui aiment le coin reculé de ma maison et, fermant mes volets, je suis venu écrire dans ma chambre pendant que le capitaine attendait son père qui s'attardait dehors. Maintenant, je vais dormir et rêver avec une certaine satisfaction que je vois. Chut, on parle de moi derrière ces murailles en papier. 11h30. Ah, Percé, et vous savant que l'amour inspire. Je vous assure, mon père, que cette jeune fille est... Ici, je n'entendis pas le mot, mais la réponse de M. Envec m'éclaira. Insensé, je n'en sais rien. Elle est bien jolie femme. À ta place, je l'aurais aimée comme un fou. Que devenir avec un esprit qui extravague toute la journée? Quelle révélation désastreuse pour mon amour-propre! C'est l'absurdité qui rend les femmes séduisantes. Il n'y a pas d'ennui plus mortel qu'une femme pot-au-feu. Je ne pourrai jamais m'habituer à ce mouvement perpétuel. Quel esprit bizarre, toujours remuant et voyant ce que personne ne voit. Son tuteur est un homme froid, de grand sens, et il n'a pas pu la changer. La changer ? Quelle horreur ! Il faut la développer, au contraire. Cette jeune fille aura le diable au corps quand l'amour passera dans sa vie et donnera l'essor à la flamme divine. « Vous croyez qu'elle aura encore plus qu'aujourd'hui le diable au corps ?» s'écria Percé avec épouvante. « Que deviendrai-je ? Mais c'est terrifiant, mon père !»« Terrifiant ! Laisse-moi donc tranquille, c'est délicieux. Que ne suis-je à ta place, sur le point de partir avec elle et d'ouvrir son âme à la vraie vie ? Enlevée par lui pour vivre de la vraie vie au milieu de ses squelettes reconstitués, impossible de l'évoquer jeune, sans lunettes et bien habillée. Ainsi bâti, il m'emporte. Nous vivons avant le déluge dans un paysage fantastique et je l'aide à reconstruire ses mammifères. Cette image de mon bonheur est si vive que j'aurai le cauchemar toute la nuit. Impossible, mon père, impossible! Vous n'avez pas voulu, en arrivant, parler à M. de la Platière sous prétexte de me laisser réfléchir encore et d'observer vous-même la jeune fille, mais aucune réflexion ne peut changer ma manière de voir. Comme en stratégie, il avait une opinion. Je ne te croyais pas aussi déraisonnable, Pierre. Pense du moins à la dot que tu ne retrouveras jamais, très probablement. C'est une fortune inespérée, etc. Sur ce point, il s'est étendu très longuement. D'amour et de vraie vie, il n'était plus question. Il m'a paru même qu'au pis-aller, on pouvait s'en passer sans l'ombre de vergogne. Mais Percé a tenu bon et gagné mon estime. Il entend bien ne pas épouser la folie en personne. Arrangez-vous comme vous voudrez, mon père, mais dénouez la situation. Comment veux-tu que je fasse ? Il croyait la chambre que j'occupe inhabitée, et après n'avoir perdu aucune parcelle de cette instructive conversation, je vais me garder de faire plus de bruit qu'une souris. Chapitre 30. 8 août, hôtel du Glacier du Rhône. Il était 8 heures environ quand, ce matin, j'ai prié M. de la Platière de sortir avec moi sur le plateau de la Fourque. Nous étions en face de sommets qui paraissaient tragiques, avec les grandes ombres que le soleil n'avait pas encore trouées. C'était un cadre unique pour prendre une décision solennelle. « Eh bien, Hélène, qu'on me ramène dans mes fers !» m'écriai-je avec énergie. « Dans tes fers ? Oui, qu'on rive mes chaînes à mon rocher. C'est mon donjon que j'appelle ainsi, et je suis Andromède, tuteur. » Andromède ou non, folle ou sage, cet officier, abstraction faite de son père, est charmant, Hélène. Il a les qualités les plus solides. Je ne le nie pas. C'est un ingénieur sous une casaque de hussard. Il ne s'émeut, il n'a une opinion qu'en parlant du côté technique de son métier. Non seulement il ne sait rien magnifier, mais il rapetisserait même les cieux s'il le pouvait. Défend-il son pays quand on l'attaque ? Est-ce une attitude de soldat que la sienne ? Sa platitude hier eût été la goutte d'eau si, depuis longtemps, la coupe ne débordait à plein bord. Il n'a ni caractère, ni jugement large, ni esprit, ni... Voyons, voyons, interrompit M. de la Platière. Tu te rappelles ce que le général a dit de son intelligence ? À quoi sert d'avoir de l'intelligence pour ne pas comprendre ? Mais il comprend. Si j'étais femme, un homme avec ce caractère doux et pondéré m'eût beaucoup plu. C'est un esprit tranquille, pratique. Et tracassier, il ne se passe pas de jour sans qu'il se plaigne d'une chose matérielle quelconque. Si je l'épousais, je sens qu'au bout de 8 jours, je me ferais enlever par un chef d'escadron. Pas de sottises, Hélène, tu sais que je ne les aime pas. Dans quelle situation embarrassante nous voilà ? Oh, point du tout. Il ne demande qu'à se retirer et je vais vous en donner la preuve. J'allais commencer mon récit, mais M. Anvec s'approchait de nous et, le laissant avec mon tuteur, je me dirigeai vers le côté de la montagne où le capitaine, je l'avais vu passer, s'était assis pour réfléchir à ses angoisses. « Vous paraissez très triste, lui dis-je. Mais non. Un non qui veut dire oui. « Regardez là-bas mon tuteur et votre père qui causent ensemble. Ils vont dénouer la situation et vous n'aurez plus à craindre le mouvement perpétuel d'un esprit insensé, bizarre, qui voit ce que personne ne voit. »« Mademoiselle, comme vous m'avez bien traité hier soir, » dis-je en riant. « Vous avez entendu, » dit-il avec consternation. « Mais oui, n'ayez pas cet air confus. » Je vous assure que je ne vous en veux pas. Mon esprit extravagant ne va pas jusque-là. Nous avons fait un essai, il n'a pas réussi. Quoi de plus simple ? Je suis désolée, les expressions sont allées plus loin que ma pensée. Je n'en crois rien et bénissez avec moi les surprises apportées par les constructions légères. Il me suivit, consterné mais ravi, auprès de mon cousin. Si vous êtes embarrassés tous les deux, nous allons vous tirer d'embarras, dis-je. Nous avons décidé, le capitaine et moi, que nos caractères sont trop dissemblables pour que nous puissions nous épouser. En vérité, quelle absurdité et quel dommage ! S'écria le savant. Que vous avais-je dit ? Ajouta-t-il en se tournant vers mon cousin. Pourquoi avoir voulu qu'ils se connussent ? Sans cette singulière fantaisie, ils s'épouseraient. Mais mon tuteur, qui me voyait galopant en croupe sur le cheval d'un chef d'escadron, répondit avec austérité « J'ai des idées arrêtées sur ce point et je ne déroge jamais à mes idées raisonnables. » « Alors vous devez faire bien des bêtises. Ah, mademoiselle, si c'était moi, si j'avais 30 ans de moins, mon fils est un benêt, » murmura le savant, de façon que seul je l'entendis. J'approuvais cette conclusion, mais n'en pouvais rien dire. « Nous allons descendre par ici, » dis-je en montrant le côté du glacier, « et vous, par là. » Je donnai une cordiale poignée de main à Percé, qui n'est plus Percé, saluai un peu cavalièrement le savant et rentrai à l'hôtel pour y faire mes préparatifs de départ. Monsieur de la Platière m'accompagna pour me demander des explications sur la façon dont j'avais amené la rupture. Il m'était aisé de trancher le nœud d'un coup de ciseau, cousin. Et je lui racontai la conversation de la veille. Quelle étrange chose que l'inconséquence de l'homme! Au lieu d'approuver M. Pierre Envec, il prit mon parti. Ne pas te trouver à son goût? Il est bien difficile, ce petit capitaine, dit-il avec dépit. Et pourquoi te juge-t-il insensé? C'est trop fort, cousin! « N'est-ce pas votre propre avis ? Vous me répétez sans cesse que je n'ai pas le sens commun. »« Moi, c'est différent. Un tuteur doit redresser l'esprit qui lui a été confié. »« Mais il ne te connaît pas assez pour porter sur toi un jugement si sévère. » »« Si je l'avais un peu poussé, il eut, en cette minute fugitive d'épanchement, fait une déclaration à mon bon sens. » Au fond, un tuteur a toujours, inconsciemment, une miette d'amour pour sa pupille quand elle est jolie femme et quand l'esprit de cette jolie femme renferme je ne sais quel diable taquin. Pendant qu'une voiture nous précédait avec nos malles, nous avons descendu à pied le versant de la Fourque. Une promenade pendant laquelle je croyais voler. Des roses des Alpes à chaque pas, par endroits, des plaques de neige que n'avait pu fondre un soleil chaud. Une vue indiciblement belle et plus de percée positive, mais un percée à venir qui planait, vaguement dessiné, à la cime des montagnes. « Ah, que je suis heureuse !»« Comment, tu n'es pas un peu contrariée ?»« Non, cousin. Prenez garde à cette pierre qui pourrait vous faire tomber. Je vais vous donner le bras pour vous soutenir. » Vous êtes Édipe, moi Antigone, et jamais ces antiques figures ne se sont promenées dans un si beau pays. La vie est douce, tuteur, ne trouvez-vous pas ? Pas avec une pupille extravagante, soupira mon cousin, qui rentrait dans son rôle, regrettait sa demi-déclaration de l'heure précédente, mais dont l'air, devant mes délicates attentions, démentait les paroles. J'écris dans le salon, en face du glacier aux nuances d'un bleu presque pur. Quels sont les forgerons fabuleux qui ont manié ces blocs énormes aux formes étranges ? J'arrête ma plume pour les regarder travailler, forger les masses singulières, mais, dans un instant, une brume qui cache déjà les montagnes environnantes me dérobera ces robustes travailleurs. Chapitre 31. Genève, 12 août. Nous avons été retenus un jour entier au glacier du Rhône par une pluie torrentielle. Le temps s'est gâté complètement et on nous a prédit une série de mauvais jours. « Fuyons, » a dit mon tuteur. Et comme le crime poursuivi par la justice, nous avons fui et perdu vers Genève en brûlant les différentes étapes où j'aurais voulu m'arrêter. Cependant, à Montreux, une éclaircie nous a permis d'admirer le beau Léman, avec son immensité et ses rives perdues dans l'éloignement. Nous l'avons traversé sous une pluie battante et avons visité Genève sous un déluge. « Je voudrais bien être chez moi, » m'a dit ce soir mon cousin. « Nous y serons dans 3 jours. Avouez, en tout cas, que mes grandes aventures vous ont fait faire un voyage surprenant. » Mais non, pas surprenant, agréable, si nous n'avions pas eu la préoccupation de tes fiançailles. Ah, ces hommes, mais qu'ont-ils dans leur cerveau à la place des facultés qui font voir et comprendre? Nous avons accompli un voyage étonnant et ils ne s'en doutent même pas. C'est avec mélancolie que, pour la dernière fois, j'écris ce soir dans ce pays incomparable où la réalité peut se transformer si aisément en vision délicieuse. L'esprit le plus froid devrait y être sans cesse embrasé par la magie des beautés et de la vie. Chapitre 32. Paris, 14 août. Cette magie est si tenace qu'elle m'a tenu en son pouvoir, même sur le sol parisien, affreusement poussiéreux. Mon tuteur a voulu passer un jour ici parce qu'il désirait parler au directeur de son journal afin de lui conseiller amicalement d'être moins impétueux et de pratiquer la vertu de la modération. Chaque année, il lui envoie une lettre d'encouragement en cette sainte voie et réponse lui est généralement faite par un article dans lequel l'huile coule à flot sur le feu. Mais M. de la Platière ne se décourage pas et quand il vient à Paris, il va soumettre ses idées à ce directeur qu'il a, du reste, connu autrefois. Comme la pensée ne lui pouvait venir de m'emmener dans un lieu où, comme chacun sait, la vertu est fragile, il me conduisit dans une église, car je ne voulais point rester emmuré dans mon hôtel, et d'amis ou de connaissances, en ce moment, il n'y faut pas penser. En voyant circuler les foules, nous disons, comme disait autrefois ce gentilhomme à une belle dame, en parlant du théâtre qui regorgeait, « Madame, il n'y avait pas un chat. » Et ce sera toujours cela même, quoi que nous voulions dire ou faire contre le passé. Dans mon église, un chanoine prêchait. D'un ton menaçant, il nous ordonna d'aimer Dieu, puis nous parla de sainte Clotilde, en nous déclarant avec une ardeur si furieuse qu'elle avait converti la France, qu'il avait l'air de lui en vouloir énormément. Rempli de compunction, je m'en allai sous le portail, admirablement sculpté, m'assis sur un vieux banc en pierre et regardais devant moi un jardin étiolé et brûlé. Aussitôt, sous l'empire de la magie qui remplit encore ma vue, cette apparence de verdure me transporta dans le pays merveilleux que je venais de quitter. Je me promenais dans les forêts sacrées, je revis, vêtus de lin blanc, les druides qui accomplissaient les rites de leur religion. Isis s'approcha, me fit respirer sa fleur de lotus, et les sons qui s'échappèrent de son sistre me parurent des voix ravissantes qui traversaient l'espace pour venir des rives du beau Léman jusqu'à moi. Mon tuteur fut très étonné de me trouver assise, comme une mendiante, à la porte de l'église, au milieu des saints sculptés. « Qu'est-ce que tu fais là, Hélène? Je t'avais laissée en sûreté dans une chapelle. Es-tu malade ?»« Non, cousin, je médite et personne ne m'a attaquée. Isis, seule, est venue me visiter. »« Isis !»« Je l'ai vue, tuteur, » dis-je en lui prenant le bras et en descendant les marches du portail. Elle a secoué son lotus et les pétales bleutés ont germé aussitôt et transformé ce maigre jardin en forêt vierge. Elle a touché son cistre et vous n'imaginez pas quels sons divins sont sortis des entrailles de ce Paris. Ah, cousin, cousin, Isis! En général, Hélène, quand on sort d'une église, on ne pense pas à Isis. C'est la faute du chanoine, tuteur. Et le voyant prendre l'air empesé de son ancêtre, je lui dis, pour détourner le cours de ses idées, « Nous devrions aller voir la maison de votre cousine et grande amie, Madame Roland. » Il m'a regardé avec un dédain austère qui s'adressait autant à Manon Flippon qu'à Mademoiselle de la Platière et nous sommes rentrés à l'hôtel où je charme d'ennuyeux loisirs en griffonnant mes dernières impressions de voyage. Chapitre 33. La platière, 20 août. Mon donjon m'a paru rapetissé comme quelqu'un qui a vieilli. Quoi, c'est dans ce pigeonnier que j'ai vu tant de choses. Le paladin Roland, la vie ouverte, le bonheur entrant par la fenêtre. Oh, ingratitude! J'ai passé dans ma retraite, j'y passerai encore des heures exquises. Le souvenir des événements extraordinaires du mois dernier s'atténuera, mon pigeonnier redeviendra donjon, et j'y verrai défiler le monde varié qui, toute ma vie, est aimablement entré chez moi. Mes chaînes m'importent peu, et puisqu'un paladin n'a pas su les briser, j'attendrai un berger. « Eh bien, tuteur, ai-je demandé ce matin à M. de la Platière, qui fumait mélancoliquement son cigare dans ma tour. « Que dites-vous ?»« Qu'une pupille est une calamité. »« En êtes-vous sûr ?»« Je voyais ma tâche accomplie, ton sort fixé, et puis rien. »« C'est possible. Mais vous m'aimez, cousin. De plus, je fais partie de vos habitudes, et quand je serai parti, un casier de votre vie sera vide. » Je ne dis pas le contraire, ma maison me paraîtra grande. Mais je ne sais que faire de toi. C'est très simple. Mon paladin m'a trompé. J'attends maintenant mon berger. Bah, un berger! Avec une âme virgilienne, tuteur. C'est Virgile que tu attends désormais? Certainement. Tout ce que je demande, c'est qu'il n'ait pas le bonnet à queue qu'on lui voit quand il se promène dans les enfers avec Dante. « Non, je me trompe, c'est Dante qui est ainsi coiffé. Virgile est couronné de laurier et il n'en est pas mieux. Enfin, pour le costume, je réfléchirai. Je désespère de faire de toi un être raisonnable, Hélène. » « Et en attendant Virgile, repris-je, je vivrai avec délice dans mon donjon. Peut-être y resterai-je éternellement ainsi, sans plus connaître les hommes. Les années enseveliront les années. » Mon vieux tuteur austère, maniaque et débonnaire, disparaîtra. Moi, vieille demoiselle bienfaisante et respectée, je vivrai, puis m'éteindrai, au milieu de mes vassaux. Mon cercueil, qui passe dans les sentiers bordés d'ajoncs, ne remue pas grande douleur. Cependant, des regards mouillés le suivent. Il renferme un visage accueillant qu'on ne verra plus, et une main dont chacun a connu les dons. 8 jours ont passé, et avec eux a passé mon souvenir. Ce tableau attristé me séduit. Néanmoins, je penche pour mon berger. Il entre sans fracas guerrier dans mon donjon, ne saute point par la fenêtre, mais s'assoit tranquillement. Dans ses yeux, je lis l'amour de la poésie naturelle, la féerie des visions inspirantes, les tendresses d'une âme profonde. Il est tantôt en berger Watteau, tantôt en berger d'Arcadie, selon mon humeur civilisée ou primitive. Mais, qu'il soit vêtu de satin ou couvert d'une peau de chèvre, il est toujours berger et toujours poète. Je crois en mon berger.